Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 1er décembre 2022 et il est 8h.
La matinale info, Rudy Saada.
Deux commandants du djihad islamique ont été éliminés lors d'une opération antiterroriste de Tsahal à Jenin cette nuit. Le groupe terroriste menace Israël de représailles, signe que la tension est loin de retomber en Israël. Gérard Benhamou.
Oui, bonjour Rudy. Israël traverse une période difficile où se joue une bataille pour sa sécurité devant une recrudescence du terrorisme à l'intérieur de ses frontières et en Cisjordanie où vit une importante population israélienne et palestinienne en tension.
Comme chaque matin, pendant ce mois de solidarité, nous évoquerons la campagne de la Tzedaka. Nous serons en ligne avec le directeur général délégué du Fonds social juif unifié, Fabien Azoulay, pour parler avec lui des actions menées pour faire face à la précarité énergétique, alors que l'hiver s'annonce difficile, notamment pour les plus fragiles. En fin de demi-heure, vous retrouverez la chronique Expo de Fabienne Cohen-Salmon.
Cette semaine, je vous emmène à la découverte de l'exposition Kimono, un vêtement qui transcende les frontières.
Et puis Jérôme Attal nous parlera du 1er décembre dans l'histoire juive.
Aujourd'hui, je vais vous parler de la naissance du plus grand syndicat d'Israël.
Bonjour Marc Ossifer.
Bonjour Rudy, bonjour à tous.
On ouvre cette matinale info avec le journal.
Le journal Marc Ossifer.
On le disait il y a un instant, deux commandants du djihad islamique éliminés à Jenin cette nuit lors d'une opération antiterroriste.
Plusieurs Palestiniens ont été blessés, quatre autres ont été arrêtés. Le djihad islamique menace Israël de représailles.
Volodymyr Zelensky souhaite qu'Israël cesse son équilibre diplomatique entre l'Ukraine et la Russie.
Il s'est entretenu par téléphone avec Benjamin Netanyahou en affirmant que 550 drones iraniens avaient été envoyés en Russie. Des drones qui ont endommagé les infrastructures ukrainiennes. Volodymyr Zelensky demande donc au futur Premier ministre israélien d'aider l'Ukraine avec des systèmes de défense.
Emmanuel Macron sera donc reçu aujourd'hui à Washington, à la Maison-Blanche, par Joe Biden.
Ce sera son deuxième passage à la Maison-Blanche après celui de 2018 avec Donald Trump. L'occasion pour Emmanuel Macron et Joe Biden d'échanger sur plusieurs thèmes, à commencer par la guerre en Ukraine. Le chef de l'État sera accompagné de toute une délégation, Bruno Le Maire, Catherine Colonna, mais aussi Thomas Pesquet, Sophie Adnaud ou encore Bernard Arnault.
Et en amont de cette rencontre, Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir devant la communauté française à Washington.
Le chef de l'État dit craindre que l'Europe et la France deviennent une sorte de variable d'ajustement de la rivalité entre Washington et Pékin. Il a également plaidé pour, je cite, « essayer ensemble d'être à la hauteur de ce que l'histoire a scellé entre nous, une alliance plus forte que tout ». Fin de la citation.
Et de 7, Elisabeth Borne déclenche pour la 7e fois l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.
La Première ministre a cette fois engagé la responsabilité de son gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
Aujourd'hui, à l'issue de l'examen du texte et à quelques jours du terme du délai constitutionnel, je regrette à nouveau, comme je l'ai déjà fait, que les positions soient restées figées et que malgré les avancées, chaque groupe d'opposition ait réaffirmé sa volonté de s'opposer au projet de loi, quoi qu'il contienne, quel qu'il soit. Je l'ai encore entendu lundi. Or, après le vote d'une motion de rejet au Sénat, le texte n'a pas bougé d'une virgule par rapport à la version qui a été adoptée lundi dernier.
Les quatre groupes parlementaires de la NUPES ont annoncé qu'ils déposeraient une motion de censure commune contre le gouvernement.
Grève des médecins généralistes et des laboratoires d'analyse médicale aujourd'hui.
C'est une première depuis 2015. Tous les syndicats de médecins libéraux appellent à la grève. Ils demandent le doublement du tarif de consultation qui devrait passer, d'après eux, de 25 à 50 euros. Ils s'inquiètent aussi à l'heure des déserts médicaux pour leur liberté d'installation. Quant aux biologistes, ils s'opposent à la ponction de 250 millions d'euros par an inscrite dans le budget de la Sécurité sociale pour 2023.
Décembre s'annonce agité à la SNCF avec une première grève de demain à dimanche.
60% des TGV et des intercités seront annulés ce week-end. Un train sur deux est à prévoir vers le nord de la France, 1 sur 3 vers l'est, 1 sur 4 vers l'Atlantique et 1 sur 3 vers le sud-est. Une grève qui porte sur des revendications salariales, le déroulé des carrières et plus globalement sur la reconnaissance des spécificités de la fonction du métier de contrôleur.
dans un contexte de forte inflation, on en parlera tout à l'heure. Industriels et supermarchés se retrouvent aujourd'hui autour de la table des négociations.
Ils vont dans un contexte explosif discuter des prix de l'an prochain. Les industriels demandent notamment plus de 20% pour les conserves de fruits ou 41% pour les croquettes pour animaux. Ils vont donc tenter une nouvelle fois de convaincre les supermarchés d'acheter plus cher leurs produits. Michel-Édouard Leclerc dit s'attendre à un tsunami d'inflation alimentaire l'an prochain.
Entre en vigueur aujourd'hui de l'extinction de la publicité lumineuse de la nuit à Paris.
Les pubs lumineuses seront donc éteintes entre 23h45 et 6h du matin, une décision qui devance un décret gouvernemental qui prévoit la même chose sur l'ensemble du territoire, mais à compter du 1er juin prochain. Quant aux panneaux des kiosques de presse et des abris voyageurs, ils seront éteints à partir de 1h du matin.
L'année 2022 est la plus chaude jamais mesurée en France, c'est ce qu'annonce Météo France.
La température annuelle sera comprise entre 14,2 et 14,6 degrés, une moyenne largement supérieure au précédent record de 2020 avec 14,07 degrés. A noter aussi que 3 vagues de chaleur ont été enregistrées, soit un record de 33 jours accompagné d'une sécheresse historique avec plusieurs feux de forêt.
Nous sommes le 1er décembre et c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida.
Une journée qui avait été établie en 1988 par l'Organisation mondiale de la santé pour rendre hommage aux personnes décédées de la maladie et pour mieux sensibiliser la population. Aujourd'hui, 38 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde et 13% de nouvelles découvertes de séropositivité concernent les jeunes de moins de 25 ans.
Un mot de culture avec les œuvres de 50 artistes israéliens réunis pour la première fois à la mairie du 9e arrondissement de Paris.
Ces peintures et ces sculptures sont exposées depuis hier et jusqu'au 20 décembre dans 4 salles. L'exposition s'intitule « Une histoire d'art entre Tel Aviv et Paris ». Plusieurs artistes ont donc choisi de représenter Jérusalem ou Israël en général, alors que d'autres se sont focalisés sur Paris et ses symboles comme le coq français ou la tour Eiffel.
Et on termine comme chaque jour avec le football, la Coupe du Monde au Qatar, la rencontre hier avec cette fin rocambolesque entre la France et la Tunisie.
Les Bleus se sont inclinés 1-0 face à la Tunisie. La Fédération française de foot va déposer une réclamation contre l'annulation du but d'Antoine Griezmann. Mais l'équipe de France termine tout de même première de son groupe. Elle affrontera la Pologne en 8e de finale. Quant à la Tunisie, elle a tout de même été éliminée car dépassée par l'Australie.
Merci Margot Siffer, vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h07. Dans un instant, on ira en Israël alors que 2 commandants donc, du djihad islamique ont été éliminés cette nuit. Le groupe terroriste promet des représailles et plus globalement, les services de renseignement israéliens indiquent que la tension risque de s'amplifier.
RCJ. On s'était donné rendez-vous dans 30 ans.
30 ans de solidarité, 30 ans de Tzedaka FSJU.
Agir contre la précarité, le handicap, l'isolement de nos aînés. Tous ces combats, nous les menons depuis 30 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année encore, tous ensemble, donateurs, parrains et bénévoles, continuons d'écrire la solidarité.
Donnons sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr.
Restez connectés à nos événements, festifs et solidaires.
Suivez le FSJU sur Facebook et Instagram.
Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr.
Bain et déco. Donnez à votre salle de bain une dimension unique.
Bain et déco.
Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre.
Le secret Bain et déco.
Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet.
Le plus, Bain et déco.
Les marques les plus prestigieuses et une seule ambition, l'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés, Paris 11e et Boulogne.
Bainetdeco.com.
Le 4 décembre, je vais à la Convention nationale du CRIF.
C'est où cette année?
C'est pour la première fois à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, Paris 7e.
Et t'as vu le programme?
Oui, pendant toute la journée, de 10h à 19h, beaucoup de conférences sur plein de sujets divers et variés, plus encore que les années précédentes.
Et il y aura beaucoup de personnalités?
Oui, les débats vont être passionnants. Nicolas Sarkozy, Anne Hidalgo, les ambassadrices d'Israël, des Émirats, des intellectuels, des chercheurs et beaucoup d'autres personnalités comme Thierry Marx, Anne Sinclair et Maurice Lévy.
Ah oui, ça va être un grand moment.
Viens avec moi, on se retrouve tous à la convention du CRIF le dimanche 4 décembre et n'oublie pas de t'inscrire sur le site du CRIF.
Attention, offre flash valable 48 heures pour profiter du soleil des Lattes cet hiver. Partir en israël.com et les hôtels Fatal vous proposent un séjour. Vol direct plus 7 nuits d'hôtel à Elat à partir de 899 € par personne en formule all inclusive. Laissez-vous également séduire par nos vols directs vers Elat tous les dimanches jusqu'à Pessah et notre large choix d'hôtels. Attention, nombre de places très limité et surclassement offert pour les 5 premières réservations. Renseignements et réservations sur partirenisraël.com ou au 01 70 70 00 49.
En Israël, les services de renseignement s'inquiètent alors que les attentats sont quasi quotidiens. Bonjour Gérard Benhamou.
Bonjour Rudy, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. La société israélienne elle-même est traversée par des tensions et le terrorisme palestinien est un facteur d'aggravation.
Tout à fait Rudy. Au-delà donc de ces aspects sécurité et défense, émerge après 5 élections une fracture sociale et politique qui met en cause des problèmes d'identité et de vision du devenir du pays. Un clivage s'est affirmé avec d'un côté un camp qui aspire à plus de laïcité, de l'État et une économie libérale peu interventionniste, avec le moins également de religion et plus de démocratie, l'image d'un Israël technologique et moderne. En face, l'obsession, c'est la crainte au contraire de voir Israël perdre son cordon ombilical juif et comme dans d'autres pays, le constat d'une poussée populiste de droite et d'extrême droite, hostile à toute forme d'examen critique et donc de contre-pouvoir, avec dans son collimateur la Haute Cour de justice. Les terroristes ont pressenti qu'il existe là une brèche propice pour enfoncer un coin, celui de la terreur.
Alors on parle maintenant de l'actualité sécuritaire avec donc cette opération cette nuit où deux commandants du djihad islamique ont été neutralisés. Une unité spéciale du Shabak a été constituée pour conduire la recherche des terroristes qui, eux, ont posé des bombes à Jérusalem. C'était donc ce double attentat à la station d'autobus, c'était la semaine dernière.
Oui, un double attentat qui inquiète considérablement les forces de défense israéliennes. On sait que l'enquête des forces de sécurité, en effet, a progressé. Elles sont parvenues, avec l'aide du renseignement, à conduire positivement une opération dans Jenin, qui a abouti d'abord à la capture d'un terroriste palestinien en possession d'armes et d'une somme importante d'argent. Une course contre la montre est donc engagée pour parvenir à la neutralisation du commando responsable de ce double attentat, tuant 2 civils et blessant plus d'une dizaine de personnes. Mais surtout avant qu'il ne fasse d'autres victimes. La police a imposé à ce stade une rétention d'informations sur le dossier et des opérations sécuritaires se poursuivent notamment à Jenin avec, comme vous l'avez dit, l'élimination de 2 commandants du djihad islamique.
Et puis comme on le disait, la 12e chaîne israélienne a révélé que de hauts responsables du Shin Bet et de Tzal ont mis en garde la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset contre une escalade sécuritaire.
En précisant des développements et une ampleur comme en efficacité est à attendre. De même source de la part du terrorisme, de même source on craindrait que les organisations terroristes déploient leurs membres pour commettre des attentats à l'arme à feu dans toute la Cisjordanie où les tensions sont déjà très vives. Pendant ce témoignage, un responsable de la sécurité aurait assuré aux députés que l'autorité palestinienne était désormais stable et la nécessité que le prochain gouvernement œuvre à renforcer l'autorité palestinienne dans l'intérêt d'Israël.
On en revient à la politique. Alors que Benjamin Netanyahu est en train de constituer son gouvernement, eh bien, le futur Premier ministre affirme qu'Israël ne sera pas gouverné selon la loi talmudique.
Le futur Premier ministre, conscient en effet des inquiétudes qui traversent la masse des électeurs qui n'ont pas voté pour lui, a voulu hier rassurer les Israéliens, mais également les pays amis d'Israël, à l'étranger donc, soulignant dans une interview accordée au site américain Common Sense que les inquiétudes concernant la présence dans son gouvernement d'alliés d'extrême droite étaient injustifiées, car il entend continuer à dicter sa politique et il ne permettra pas que les positions marginales prennent le dessus.
Et sur le plan diplomatique, hein, la Maison-Blanche a compris qu'elle va devoir composer donc avec un partenaire israélien, avec en son sein des élus, on va dire, d'extrême droite.
En effet, et des ministres en particulier, aux convictions très éloignées des aspirations politiques et diplomatiques américaines. Le président Biden a réaffirmé la solidité du partenariat bilatéral et il a souligné son soutien inébranlable à la sécurité d'Israël. Toutefois, dans l'affaire Abu Akleh, la pression du Congrès aurait joué un rôle dans la décision du FBI d'ouvrir une enquête. Et pour les États-Unis, la question la plus urgente en ce qui concerne Israël est de maintenir le calme à Jérusalem en évitant les flambées de violence, selon Michael Koplow de l'Israel Policy Forum, lequel a déclaré que Ben-Gvir représentait un obstacle à cet effort.
Et puis on termine avec une innovation israélienne. Une start-up a mis au point un drone autonome longue distance qui va pouvoir acheminer des fournitures médicales aux principaux hôpitaux israéliens du pays.
Une véritable révolution. Un accord signé en effet avec Sarel, la plus grande société d'achat et de logistique médicale du pays, permettra de créer le premier réseau de drones aériens pour livrer des fournitures médicales urgentes aux hôpitaux dans un rayon de 200 km. D'ici 3 ans, ce réseau de drones distribuera des fournitures médicales à 11 hôpitaux en Israël. Gérard Benhamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
Merci Gérard. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h15. Dans un instant, on évoquera les actions menées par la Tzedaka pour faire face à la précarité énergétique alors que l'hiver s'annonce difficile, notamment pour les plus fragiles.
On s'était donné rendez-vous dans 30 ans.
Patrick Bruel, parrain de la Tzedaka 2022, vous donne rendez-vous lundi 5 décembre à 20h au Palais des Congrès, entouré de très nombreux artistes. Location ouverte sur pdc.tzedaka.fr, pdc.tzedaka.fr et au 01 42 17 10 08, 01 42 17 10 08.
Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le mur.
Vous faites votre Alia?
Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe Fidi s'occupe de tout.
Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque. Véhicules. Solutions de stockage pour courte et longue durée en nos dépôts ultra sécurisés.
Sonigo Déménagement, agent en douane certifié Fidi et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe Fidi
au 01 76 54 92 92.
01 76 54 92 92. Ou sur le www.sonigo.com.
Le 4 décembre, je vais à la Convention nationale du CRIF.
C'est où cette année?
C'est pour la première fois à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, Paris 7e.
Et t'as vu le programme?
Oui, pendant toute la journée, de 10h à 19h, beaucoup de conférences sur plein de sujets divers et variés, plus encore que les années précédentes.
Et il y aura beaucoup de personnalités?
Oui, les débats vont être passionnants. Nicolas Sarkozy, Anne Hidalgo, les ambassadrices d'Israël, des Émirats, des intellectuels, des chercheurs et beaucoup d'autres personnalités comme Thierry Marx, Anne Sinclair et Maurice Lévy.
Ah oui, ça va être un grand moment.
Viens avec moi, on se retrouve tous à la convention du CRIF le dimanche 4 décembre et n'oublie pas de t'inscrire sur le site du CRIF.
Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr.
On s'était donné rendez-vous dans 30 ans.
30 ans de solidarité, 30 ans de Tzedaka FSJU.
Agir contre la précarité, le handicap, l'isolement de nos aînés. Tous ces combats, nous les menons depuis 30 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année encore, tous ensemble, donateurs, parrains et bénévoles, continuons d'écrire la solidarité.
Donnons sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr.
Restez connectés à nos événements, festifs et solidaires.
Suivez le FSJU sur Facebook et Instagram.
Merci d'écouter RCJ, il est 8h18, nous sommes au cœur de la campagne de l'appel national unifié pour la Tzedaka. Et alors que le gouvernement évoque pour la première fois une note au préfet des coupures de courant pour cet hiver, on va s'intéresser ce matin à la manière dont le Fonds social agit contre la précarité énergétique. Entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, la hausse des prix de l'énergie a contribué à 3,1 points d'inflation sur un total de 5,3, une hausse qui nous touche toutes et tous, mais notamment qui touche les plus fragiles d'entre nous. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le directeur général délégué du Fonds social juif unifié, Fabien Azoulay. Bonjour.
Bonjour Rudy, bonjour à tous.
Alors nous sommes avec vous ce matin pour évoquer les actions du Fonds social en vue de cet hiver difficile. Quel dispositif a été prévu?
Alors écoutez, la question de la précarité énergétique, c'est une question déjà beaucoup plus globale qui s'inscrit dans un enjeu de précarité. Et effectivement, on sait bien que dans ces situations où, en 2022, grâce à l'action de l'État, il faut le souligner, l'électricité n'a augmenté que de 4%, puisqu'il y a eu un bouclier tarifaire et qu'ils annoncent une hausse de 15%, un bouclier tarifaire à 15% en 2023, ce qui est énorme, eh bien, on s'aperçoit que les plus touchés, ce sont d'abord ceux pour qui la fin de mois est très compliquée. Parce que 15% sur une facture d'électricité à 100 euros, par exemple, ça veut dire que c'est une augmentation de 15 euros par mois. 15 euros par mois, ça peut paraître peu pour certains, mais il faut savoir que pour des gens qui ont des très bas salaires ou qui sont au RSA ou qui ont une famille nombreuse, 15 euros sur une facture d'électricité mensuelle, c'est énorme. Et donc aujourd'hui, nous, le travail au FSJU, c'est d'abord de pouvoir aider ces personnes-là, de pouvoir aider ces personnes qui sont en situation de précarité au quotidien, et on va les aider en complément des actions de l'État. L'État aujourd'hui délivre un certain nombre de solutions de base, donc on l'a dit, un bouclier tarifaire, échéance sur les factures d'électricité, chèque énergie, etc. Et nous, on voudrait pouvoir aller plus loin pour que les personnes qui sont vraiment en grande difficulté, qui aujourd'hui hésitent à allumer leur chauffage quand c'est un chauffage électrique individuel ou au gaz, ou bien n'ont pas les moyens d'effectuer les rénovations énergétiques nécessaires pour générer des économies d'énergie, on aimerait vraiment pouvoir les aider. On sait qu'on le fait déjà aujourd'hui en 2022 de manière importante. On aimerait pouvoir aller beaucoup plus loin en 2023 avec vraiment le déploiement d'un chèque énergie complémentaire à celui de l'État pour les plus précaires.
Alors, il y a aussi un rôle d'accompagnement de ces personnes pour faire valoir leurs droits. Et il y a ce lieu central qui s'est développé cette année, ces derniers mois, ce sont les épiceries solidaires, parce qu'au-delà des épiceries solidaires, c'est aussi un lieu de contact.
Oui, tout à fait. L'épicerie solidaire, c'est un lieu où les gens viennent faire leurs courses comme n'importe qui, si je puis dire. Sauf qu'ils sont orientés par un travailleur social professionnel qui, au vu de leur situation, dans la partie d'accompagnement, décide de leur proposer d'aller dans une épicerie solidaire et où ils vont pouvoir payer les produits 10 à 20% maximum du prix du marché. Ce qui fait que c'est pas simplement un lieu où on vient faire ses courses moins chères, c'est un lieu où, grâce aux économies réalisées sur ce poste de dépenses alimentaires, on va pouvoir solder une dette énergétique par exemple, afin de pouvoir mieux rebondir. Et ce lieu-là, c'est un lieu où effectivement la rencontre avec un travailleur social, avec des bénévoles, avec des personnes qui peuvent accompagner finalement les personnes en difficulté, c'est très bénéfique. Et on le voit surtout par exemple pour les personnes qui sont isolées. Une personne âgée qui est seule chez elle, aujourd'hui, elle va pas forcément aller voir un travailleur social, elle va pas forcément sortir de chez elle pour demander de l'aide. Quand elle vient dans cette épicerie, en fait, le contact, il se fait naturellement, il se fait, j'ai envie de dire, pendant que la personne fait ses courses, et tout à coup, on essaye de déceler les problèmes et de l'accompagner sur la résolution de ces problèmes qui n'auraient pas été détectés auparavant.
Merci Fabien Azoulay. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général délégué du Fonds social juif unifié et que nous avons parlé donc ce matin effectivement de tout ce qui est fait pour contrer cette précarité énergétique qui évidemment sera une des grandes préoccupations de cet hiver et un des grands enjeux de cette campagne 2022 de la Tzedaka. Merci à vous et bonne journée.
Merci à vous.
Vous écoutez RCJ, il est 8h22. Place maintenant à la chronique Expo de Fabienne Cohen-Salmon.
Expo, Fabienne Cohen-Salmon.
C'est une exposition aussi étonnante que splendide à laquelle vous convie le musée du Quai Branly à Paris. Le kimono, vêtement emblématique et caractéristique du Japon, dévoile toutes ses facettes et toutes ses coutures dans une exposition inédite sur un vêtement phare qui transcende les frontières et les catégories. Des écoles de samouraïs au podium, des acteurs de kabuki aux stars de la pop internationale, le kimono est devenu une pièce incontournable de la mode, bien au-delà de l'imaginaire lié au Japon. L'exposition, conçue par le Victoria and Albert Museum de Londres, revient sur cette histoire, celle d'une tenue emblématique ou le portrait d'un vêtement résolument moderne à travers les siècles et les continents. Habit traditionnel par excellence, apparu il y a plus de 1000 ans, il est porté par l'ensemble des Japonais, indépendamment de leur statut social ou de genre. Très vite, sa production se développe au XVIe siècle, jusqu'à atteindre les côtes européennes à la fin du XVIIe siècle pour devenir le vêtement exotique qui fascine l'Occident. Dès lors, l'engouement ne s'arrête pas et l'enthousiasme soulevé par sa forme ou ses tissus transforme profondément et radicalement la mode du continent quelques décennies plus tard. Les plus grands stylistes s'emparent alors de ce trésor en le revisitant de façon innovante et parfois subversive. Le kimono dépasse son statut de symbole et désavoue son caractère traditionnel et intemporel. L'exposition présente un parcours découverte de près de 200 kimonos, certains de vraies œuvres d'art que vous pourrez également toucher pour distinguer les multiples tissus qui le composent. L'exposition met également à l'honneur de célèbres tenues associées à la culture populaire, comme les costumes originaux des films Star Wars ou bien un kimono ayant appartenu à Freddie Mercury, sans oublier des créations des stylistes Yoji Yamamoto et John Galliano. Car l'exposition Kimono revient bien sûr sur l'histoire du kimono en tant que costume traditionnel et intemporel, mais aussi comme phénomène de mode ayant influencé des styles vestimentaires depuis le XVIIe siècle. L'exposition Kimono est à voir et à toucher au musée du Quai Branly.
Fabienne Cohen-Salmon, chaque jour, Jérôme Attal revient sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
Bonjour Rudy, bonjour à tous. Le 1er décembre 1920, la Histadrout est créée. Abréviation de Hakelalit Shel Haovdim Be'eretz Israël, c'est la centrale syndicale des travailleurs juifs de Palestine dont le premier secrétaire général est David Ben-Gourion. Plus grande organisation bénévole d'Israël et la plus grande organisation syndicale juive dans le monde. En 1969, elle comptait plus d'un million de membres, soit environ 75% de la population active en Israël. La Histadrout est plus qu'un syndicat ou un organisme. Selon sa constitution, elle réunit et organise tous les travailleurs sans distinction de croyance, de race, de nationalité ou d'opinion, qui vivent des fruits de leur travail sans exploiter le travail d'autrui, dans le but d'arranger toutes les affaires communautaires, économiques et culturelles de la classe ouvrière dans le pays pour l'édification de la société du travail en terre d'Israël. Depuis 1960, les travailleurs arabes et leurs épouses ont été admis avec plein droit d'adhésion. En 1985, elle comptait 1,5 million de membres, ce qui, avec leur famille, représentait 2,5 millions de personnes. Nous sommes le 1er décembre.
Merci Jérôme, merci Gilles, il est 8h26 et voici la météo de Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour Rudy, bonjour à tous. À Paris, un ciel bien chargé toute la journée, des nuages restant abondants et bas du matin au soir et des températures comprises entre 4 et 7 degrés. À Strasbourg, un ciel changeant entre nuages et éclaircies et des températures qui ne dépasseront pas 5 degrés. Et à Tel Aviv, du beau temps ensoleillé toute la journée et 23 degrés. Bonne journée sur RCJ.
Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info. RCJ continue, vous le savez, sur le DAB+, la radio numérique et également sur les applis disponibles gratuitement sur Apple et Android pour la FM. On se donne rendez-vous à 11h avec un essentiel exceptionnel. Elle serait présentée par Annette Lévy-Villard qui reçoit Bernard-Henri Lévy. Un entretien d'une heure en direct à suivre à partir de 11h sur RCJ. Puis on se retrouvera pour RCJ Midi et toute l'actualité à la mi-journée avec toute la rédaction, notamment le billet d'humeur de Rachel Kahn et puis également ce dialogue de Robert Namias qui reviendra sur le voyage d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Et puis à 13h05, ça sera Côté Jardin avec Jacques Benamou qui reçoit le journaliste et écrivain Arnaud Ardouin. Voilà donc pour le programme de cette journée, une journée que je vous souhaite excellente à l'écoute de RCJ.